Chapitre 16. La conférence. Lorsque les 27 mondes marchands indépendants, gonflés d'un orgueil inversement proportionnel à leur taille, endurcis par un isolement constant et des menaces permanentes, et dont le seul point de ralliement était la méfiance que leur inspirait la Fondation, la planète mère, décidaient de siéger en assemblée, il leur fallait passer par des négociations préliminaires dont la mesquinerie aurait suffi à navrer les plus persévérants. Il ne suffisait pas de fixer par avance des détails tels que le type de scrutin et le mode de représentation, par monde ou par population. C'était là des questions d'une importance politique complexe, certes, mais il y avait plus important. Il ne suffisait pas non plus de fixer les problèmes de priorité aussi bien à la table du conseil qu'à celle du dîner. C'était là des problèmes d'une importance sociale non moins compliquée, certes, mais il y avait encore plus important. Encore fallut-il cette fois-là, comme toutes les autres fois, prévoir le lieu de la réunion. Car là était, comme toutes les autres fois, le plus important. C'est du moins ainsi qu'on voyait les choses dans les provinces de l'Ancien Empire. Et en fin de compte, après bien des détours, les voies tortueuses de la diplomatie finirent par aboutir au monde de Radol. Monde que certains commentateurs avaient d'ailleurs proposé dès le début pour la raison somme toute logique et finalement imparable qu'il occupait une position centrale. Radol était une planète de taille fort modeste et, du strict point de vue militaire, peut-être la plus insignifiante de toutes. Autre facteur déterminant, soit dit en passant. C'était en outre un monde ruban. De tels mondes sont légion dans la galaxie, mais rares, très rares, sont ceux qui sont habités, faute d'offrir les conditions naturelles requises pour cela. Un monde ruban, en d'autres termes, une planète où les deux hémisphères affrontent en permanence une chaleur ou un froid extrême, tandis que la région où la vie est possible se cantonne par la force des choses à l'étroit ruban que constitue la zone intermédiaire, aussi appelée zone crépusculaire. L'expérience le prouve, un tel monde manque singulièrement d'attrait pour qui n'y a jamais vraiment vécu. Pourtant, en certains endroits stratégiquement choisis, la vie parvient néanmoins à s'épanouir, et la capitale éponyme de Radol était justement bâtie à l'un de ces endroits-là. La cité en question recouvrait de 12 collines s'étendant au pied des premiers contreforts d'une chaîne de montagnes déchiquetées qui bordait l'hémisphère froid, formant ainsi une barrière naturelle apte à repousser la glace tant redoutée. L'air sec et chaud de l'hémisphère ensoleillé parvenait jusque-là, et l'on faisait venir l'eau des montagnes. Entre les deux, Radol était un jardin perpétuellement fleuri, baignant dans l'éternel matin d'un éternel mois de juin. Les maisons s'y nichaient au cœur de ravissants jardins fleuris, d'autant plus ouverts à tous les vents qu'on ne les craignait guère, ces vents, tant ils étaient bénins en cet endroit précis. Tels des serres à ciel ouvert, les jardins produisaient donc, à une cadence remarquable, les plantes les plus rares, les plus exotiques, contribuant ainsi à faire de Radol une véritable planète horticole, bien éloignée, à vrai dire, de l'idée qu'on se faisait d'ordinaire d'un monde marchand. Radol était donc à sa façon une petite oasis de luxe et de douceur sur une planète par ailleurs horrible à tout point de vue. Un véritable petit coin d'Éden, facteur également déterminant dans la logique du choix, est-il utile de le préciser. Les étrangers arrivaient de chacun des 26 autres mondes marchands, délégués, épouses, secrétaires, journalistes, vaisseaux et équipages. La population de Radol doubla presque, ce qui puisa jusqu'aux limites même des ressources de la ville. On mangeait, on buvait à volonté et on ne dormait pour ainsi dire jamais. Rares pourtant étaient ceux parmi les fêtards qui ne se rendaient pas compte que toute cette partie de la galaxie se consumait lentement dans une sorte de guerre latente. Et parmi ceux qui s'en rendaient compte, il y avait trois catégories. D'abord, ceux nombreux qui ne savaient pas grand-chose et qui parlaient beaucoup. Ainsi en allait-il du jeune pilote de l'espace qui arborait sur sa casquette la cocarde d'Oasis et qui était parvenu, en portant son verre à hauteur de ses yeux et en regardant au travers, à capter l'attention de la jeune radolienne assise en face de lui et qui souriait à demi en le regardant faire.
« Nous avons traversé la zone des opérations pour venir ici, » disait-il. « Nous avons parcouru environ une minute lumière sur notre lancée, par inertie, juste après Orlegor. »
« Orlegor ? »
fit un indigène aux jambes longues qui se trouvait être l'hôte dans cette réunion.
« C'est là où le mulet a pris une raclée la semaine dernière, n'est-ce pas ? »
Où avez-vous entendu que le mulet s'était fait ramasser ? Demanda le pilote d'un ton hautain.
C'est la radio de la Fondation qui l'a annoncé.
Ah oui ? Eh bien, le mulet a bel et bien pris Orlegor. Nous avons failli tomber sur un convoi de ces vaisseaux. Et c'est de là qu'il venait. J'appelle pas ça prendre une raclée, quand on reste là où on s'est battu et que celui qui vous a soi-disant foutu la pâtée décampe sans demander son reste.
« Faut pas dire ça !»
s'écria quelqu'un d'une voix un peu pâteuse.
« La Fondation commence toujours par trinquer quelque temps, mais attendez un peu la suite. La vieille Fondation saura bien voir quand le moment sera venu, et alors, zang ! Ils vont morfler, les fumiers !»
L'individu conclut son discours par une grimace éloquente.
« En tout cas, » dit le pilote d'Oasis après un bref silence,
« comme je le disais, nous avons vu les vaisseaux du mulet. Et ce sont des sacrés engins. Je vais même vous dire, ils avaient l'air neufs. »«
Neufs ? »
dit l'indigène d'un ton songeur.
« Vous voulez dire qu'ils les construisent eux-mêmes ?»
Il arracha une feuille d'une branche qui pendait au-dessus de sa tête, la huma délicatement, puis se mit à mâcher les fibres dont la sève s'écoula aussitôt, répandant à l'entour une douce odeur de menthe.
« Alors, ils auraient battu les appareils de la Fondation avec des vaisseaux de leur propre fabrication, n'importe quoi !»«
On les a vus, mon vieux, et je sais distinguer un vaisseau d'une comète !»«
Vous savez ce que je crois ?»
demanda l'indigène en se penchant vers lui.
« Ne vous faites pas trop d'illusions !» Les guerres ne commencent pas toutes seules, et nous avons, au gouvernement, des gens qui savent ce qu'ils font.
« Méfiez-vous de cette bonne vieille Fondation !»
reprit le personnage aviné qui s'était déjà exprimé.
« Ils attendent la dernière minute et puis... zang ! Ils font morfler, les fumiers !»
Il adressa un sourire béat à la jeune fille qui s'empressa de s'éloigner de lui. Le radolien avait repris la parole.
« Tenez, mon vieux !» Vous croyez peut-être que c'est ce mulet qui gouverne tout là-bas ?
Mais non,
fit-il en agitant le doigt devant lui.
D'après ce que j'ai entendu dire, et attention, ça venait de haut. C'est un homme à nous. C'est nous qui le payons, et c'est probablement nous qui avons construit ces vaisseaux.
Bien sûr, à la longue, il ne peut pas battre la Fondation, mais il peut secouer pas mal ces gens-là.
Et alors, ce sera à nous de jouer.
« Tu n'as pas d'autre sujet de conversation, Kiev ?» demanda la fille.
« La guerre, tu me fatigues. »
« Parlons d'autre chose, » proposa le pilote dans un accès de galanterie. « Il ne faut pas fatiguer les dames. »
Le pochard reprit le refrain et se mit à taper en mesure sur la table avec une chope. Les petits groupes qui s'étaient formés se dispersèrent en riant, aussitôt remplacés par d'autres qui venaient d'arriver du solarium situé à l'arrière du bâtiment. La conversation devint plus générale, plus variée, plus insignifiante.
Et puis, il y avait ceux qui en savaient un peu plus et qui parlaient moins.
Comme Fran, le colosse manchot délégué officiel d'Oasis, qui, en conséquence, menait la bonne vie et se faisait sans cesse de nouveaux amis, parmi les femmes quand il le pouvait et parmi les hommes quand il y était obligé. Confortablement installé sur le solarium de la maison d'un de ses nouveaux amis, situé au faîte d'une colline, il se détendait pour la première fois depuis son arrivée sur Radol, en sachant qu'il n'aurait guère d'autre occasion d'y parvenir. Ce nouvel ami s'appelait Ivo Lyon, et il avait avec Fran de nombreux atomes crochus. Il possédait une maison loin de l'agglomération, perdue dans une mer de parfums de fleurs et de bruissements d'insectes. Le solarium en question consistait en un pan incliné à 45 degrés, recouvert de pelouse. Fran s'y était allongé pour prendre un bain de soleil.
« Nous n'avons rien de tel sur Oasis, » dit-il.
« Je n'ai jamais vu la face glacée, » répondit Ivo d'un ton somnolent. « Il y a un endroit à 30 kilomètres d'ici où l'oxygène coule, comme de l'eau.
Allons donc, c'est la stricte vérité. »
« Je vais vous dire, Ivo. Autrefois, avant de perdre mon bras, j'ai pas mal roulé ma bosse, vous savez. Et vous n'allez sans doute pas me croire, mais... »
L'histoire qui suivit fut très longue, et Ivo n'en crut pas un mot.
On n'en fait plus des comme vous, c'est vrai, dit Ivo entre deux bâillements.
C'est vrai,
acquiesça Fran. Puis il se reprit et ajouta avec feu.
En fait, non. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas dire ça.
Je vous ai parlé de mon fils, non?
Eh bien, lui, il est de la vieille école.
Ce sera un grand marchand, vous pouvez me croire. C'est son père tout craché.
Sauf qu'il est marié.
Vous voulez dire par contrat? Légalement?
Exactement.
Moi non plus, je ne comprends pas à quoi ça rime. Ils sont allés passer leur lune de miel sur... Calgan.
Calgan?
Vous voulez dire Calgan? Par la galaxie, mais quand?
Fran eut un large sourire et dit d'un ton entendu, juste avant que le mulet déclare la guerre à la Fondation.
Vraiment?
Fran acquiesça, puis il se pencha et fit signe à Ivo de faire de même.
En fait, dit-il d'un ton rauque, je peux vous dire une chose, si vous gardez ça pour vous.
Mon garçon a été envoyé sur Calgan en mission.
Je ne voudrais pas préciser, bien sûr, quel était le but de cette mission, mais si vous considérez la situation actuelle, je pense que c'est assez facile à deviner.
En tout cas, mon fils était l'homme qu'il fallait pour cette tâche.
Nous autres marchands, nous avions besoin que ça bouge un petit peu,
ajouta-t-il avec un sourire matois.
Eh bien, nous voilà servis.
Je ne vous dis pas comment nous nous y sommes pris, mais mon garçon est allé sur Calgan. Et le mulet a fait sortir ses vaisseaux.
Comme on pouvait s'y attendre, Ivo fut réellement impressionné par cette confidence. Il répondit alors, sur le ton de la confidence lui aussi,
« C'est bien.
Vous savez, il paraît que nous avons 500 appareils prêts à intervenir lorsque le moment sera venu.
Peut-être même plus que ça, »
ajouta aussitôt Fran avec assurance.
Ça, c'est de la stratégie comme je l'aime.
Il se gratta bruyamment le ventre.
Mais n'oubliez pas que le mulet est un malin. Ce qui s'est passé sur Orlegor m'inquiète un peu, à vrai dire.
Il a perdu une dizaine d'appareils, à ce qu'on raconte.
Bien sûr. Mais il en avait une centaine de plus et la Fondation a dû décamper. C'est bien gentil de mettre la pâtée à tous ces tyrans, mais là, comme ça, non. Tout ça va trop vite.
Il secoua la tête.
Et il y a surtout quelque chose qui me tracasse dans toute cette histoire. Où est-ce que le mulet trouve tous ses appareils? Le bruit court que c'est nous qui les fabriquons pour lui.
Nous? Les marchands, vous voulez dire?
Oasis a les plus grosses usines de vaisseaux des mondes indépendants, et nous n'en avons fabriqué pour personne d'autre que nous-mêmes. Vous vous imaginez qu'un monde construit une flotte pour le mulet sans prendre la précaution d'une action commune? C'est du conte de fées.
Alors la question reste posée, où est-ce qu'il les trouve?
J'imagine qu'il se les fabrique lui-même,
dit Fran en haussant les épaules.
Ce qui me tracasse tout autant, d'ailleurs.
Fran cligna des yeux sous les feux du soleil et replia ses doigts de pied sur le petit rebord de bois lisse. Il finit par s'endormir et le doux ronflement qui s'éleva bientôt de sa poitrine vint se mêler à la rumeur diffuse et entêtante des insectes.
Enfin, il y avait ceux, très rares, qui en savaient beaucoup et qui ne parlaient pas du tout. Comme Randou, qui, au cinquième jour de la Convention des marchands, alla retrouver dans le grand amphithéâtre les deux hommes qu'il avait convoqués et qui étaient en train de l'attendre patiemment. Les 500 sièges étaient vides ce jour-là et il devait le rester quelque temps encore.
À nous trois,
commença Randou avant même d'être complètement assis.
Nous représentons à peu près la moitié du potentiel militaire des mondes marchands indépendants.
Oui, acquiesça Mangin de la planète Is. C'est ce que nous étions justement en train de dire, mon collègue et moi-même.
Allons au fait dans ce cas. Je propose d'écourter les préliminaires,
dit Randou.
Cela ne m'intéresse guère de toute manière. Je ne suis pas un marchand de tapis. Messieurs, je n'irai donc pas par quatre chemins. La situation est proprement catastrophique.
En raison des...
commença Oval Gris de Mnémon.
Des récents développements de la situation. Je vous en prie, reprenons les choses au début.
Tout d'abord, notre situation ne dépend pas de nous. Et nos possibilités d'intervention sont des plus douteuses. À l'origine, nous n'avions aucune relation avec le mulet. Nous traitions avec d'autres, notamment avec l'ex-seigneur de Kalgan que le mulet a abattu à un moment qui ne nous était guère propice.
Oui, mais avec le mulet, nous y gagnons au change, dit Mangin.
Passons sur les détails.
Justement. Vous changerez peut-être d'avis quand vous les connaîtrez, ces détails.
Randou se pencha en avant, les mains bien à plat sur la table dans un geste suffisamment éloquent pour lui permettre de poursuivre sans plus insister.
« Il y a un mois, » reprit-il, « j'ai envoyé mon neveu et sa femme sur Kalgan. »«
Votre neveu ?»
s'écria Ovalgris, surpris.
« Je ne savais pas que c'était votre neveu. »
« Dans quel but ?» demanda sèchement Mangin.
« Pour ça ?»
Et son pouce dessina un cercle dans l'air.
« Non. Si vous parlez de la guerre du mulet contre la Fondation, non.
Comment aurais-je pu viser si haut ?»«
Ce jeune homme ne savait rien.
Il ignore tout de notre organisation et de ses buts. On lui a raconté que j'étais un membre subalterne d'une société patriotique d'Oasis, et que son rôle sur Kalgan se limitait à observer la situation en amateur. Mes motifs, je dois l'avouer, étaient assez obscurs. Primo, le mulet m'intriguait. C'est un étrange phénomène auquel nous assistons là. Mais nous en avons déjà discuté, je n'y reviendrai pas. Secondo, cela représentait une formation intéressante pour un homme qui a eu l'expérience de la Fondation et de la Résistance sur la Fondation, et qui a montré qu'il pouvait nous être utile, vous comprenez ?
Le visage émacié d'Oval s'étira encore davantage lorsqu'un sourire cruel découvrit soudain sa dentition carnassière.
« Alors vous avez dû être surpris du résultat, puisqu'il n'y a pas un homme, je crois, parmi les marchands qui ne sache pas que votre neveu a enlevé un serviteur du mulet au nom de la Fondation, fournissant ainsi au mulet un casus belli tout trouvé. Par la galaxie Randou. Vous nous menez en bateau. J'ai du mal à croire que vous n'étiez pour rien là-dedans. Allons. Avouez-le, c'était du joli travail.
Mais je n'y suis pour rien, fit Randou en secouant sa tête chenue. Pas plus que mon neveu qui est actuellement prisonnier sur la Fondation et ne vivra peut-être pas assez longtemps pour voir s'achever ce joli travail, comme vous dites.
Je viens d'avoir de ses nouvelles, justement. Sa capsule personnelle acheminé, je ne sais trop comment, a traversé la zone des opérations, gagné Oasis, et est revenu jusqu'ici. Elle a mis un mois en tout.
Et alors ?
Randou s'appuya pesamment sur un bras et ajouta tristement : Je crois malheureusement que nous n'allons pas tarder à subir le même sort que l'ex-seigneur de Kalgan.
Le mulet est un mutant.
Il y eut un bref silence. Randou crut presque pouvoir entendre les cœurs battre un peu plus vite dans les poitrines oppressées de ses interlocuteurs. Quand Mangin parla, sa voix était toujours aussi assurée.
« Comment le savez-vous ? »
« Je ne l'ai appris que parce que mon neveu me l'a dit.
Mais lui, il était sur Kalgan. »
« Mais quelle sorte de mutant ? »
« Il y en a de toutes sortes. »
« C'est cela, oui. »
réagit Randou en maîtrisant à grand-peine son agacement.
« Il y a toutes sortes de mutants, je ne vous le fais pas dire.
En attendant, il n'y a qu'une sorte de mulet. Vous en connaissez beaucoup, vous, des mutants inconnus au bataillon qui sont capables de lever du jour au lendemain toute une armée, d'établir à ce qu'on dit une base opérationnelle sur un astéroïde de 8 kilomètres de diamètre, d'annexer une planète, puis un système, puis un district tout entier, et pour finir, d'attaquer la Fondation, puis de l'abattre, purement et simplement, sur Orlegor ? Et tout cela en l'espace de 2 ou 3 ans à peine ?
Vous croyez donc qu'il vaincra la Fondation ?
Demanda Ovalgris en haussant les épaules.
Je n'en sais rien. Mais admettons qu'il y arrive.
Désolé, je ne vous suis plus là. Personne ne peut vaincre la Fondation, vous le savez comme moi.
Voyons, soyons sérieux.
Il n'y a pas un seul élément nouveau dans tout ça, à part les déclarations d'un... Enfin,
d'un garçon sans expérience. Si nous attendions un peu avant de sauter aux conclusions. Jusqu'à maintenant, les victoires du mulet ne nous inquiétaient pas, et à moins qu'il n'aille beaucoup plus loin que cela, je ne vois pas de raison de changer. Si ?
Randou, le front soucieux, semblait désespéré par la facilité avec laquelle on venait bel et bien de démonter son argumentation.
Avons-nous déjà pris contact avec le mulet ?
Demanda-t-il à ses deux interlocuteurs.
Non, répondirent-ils tous les deux. Il est exact pourtant que nous avons essayé, vous êtes bien d'accord ?
Il est exact, vous en conviendrez, que nos réunions ne servent pas à grand-chose tant que nous ne l'avons pas contacté.
Il est vrai que, jusqu'à maintenant, nous avons pas mal bu, souvent en galante compagnie d'ailleurs. Ne me regardez pas comme ça, je me contente de vous citer l'éditorial de la tribune de Radol d'aujourd'hui. Mais que pour ce qui est de la réflexion et surtout de l'action, on nous attend toujours. Et tout cela parce que nous ne pouvons pas joindre le mulet.
Messieurs, nous avons près de 1000 vaisseaux qui attendent d'être jetés dans la bataille au bon moment pour s'emparer de la fondation. J'affirme que nous devrions changer ce plan. À mon avis, il faudrait désormais lancer ces 1000 appareils contre le mulet.
« Vous voulez que nous nous mettions au service d'Hindebourg le tyran et des sangsues de la Fondation ?»
susurra Mangin d'un ton venimeux.
« Épargnez-moi les noms d'oiseaux !»
fit Randou en levant une main lasse.
« Je vous parle d'une action contre le mulet, peu importe qui d'autre en profitera. »«
Randou, » dit Ovalgris en se levant, « je ne veux rien avoir à faire dans tout cela. » Vous présenterez vous-même votre projet à la réunion plénière de ce soir, si vous tenez vraiment à réussir votre suicide politique. »
Il sortit sans ajouter un mot. Et Mangin le suivit en silence, laissant Randou perdu dans ses méditations, terminer seul la réunion. À la réunion plénière ce soir-là, il ne dit rien. Ovalgris, par contre, fit irruption dans sa chambre le lendemain matin, un Ovalgris à peine vêtu et qui n'était ni rasé ni peigné. Randou le contempla par-dessus la table où s'étalaient encore les reliefs du petit déjeuner avec une stupéfaction suffisante pour lui faire lâcher sa pipe. Oval n'y alla pas par quatre chemins.
« Mnémon a été bombardé depuis l'espace au cours d'une attaque surprise. »
« La Fondation ?»
demanda Randou, visiblement tendu.
« Le mulet !»
s'écria Oval.
« Le mulet !»
Il reprit d'un ton précipité.
« Une attaque délibérée. Absolument injustifiée. Le gros de notre flotte avait rejoint l'armada internationale. Les quelques appareils constituant l'escadre de garde n'étaient pas de taille et ont été anéantis. Il n'y a pas encore eu de débarquement. » Et il n'y en aura peut-être pas, car on annonce que la moitié des attaquants ont été détruits. Mais c'est la guerre, et je suis venu vous demander quelle est la position officielle d'Oasis sur cette affaire.
Oasis, j'en suis convaincu, se conformera à l'esprit de la charte de la Fédération. Mais vous voyez ce que je vous avais dit. Ils nous attaquent bel et bien, nous aussi.
« Ce mulet est un fou. Pense-t-il pouvoir conquérir tout l'univers ?»
Balbutiant, Oval s'assit pour prendre le poignet de Randou.
« Les rares survivants ont signalé que le mulet que l'ennemi possédait une nouvelle arme, un dépresseur de champ atomique.
Un quoi ?
La plupart de nos vaisseaux,
expliqua Oval, ont été détruits parce que leurs armes atomiques n'ont pas fonctionné.
Il ne pouvait s'agir d'accident ni de sabotage. Ce doit être une arme du mulet. Elle n'a pas fonctionné d'une façon parfaite, cependant, les effets étaient intermittents. On est arrivé, par moments, à la neutraliser. Les rapports que j'ai reçus donnent peu de détails à ce sujet, à vrai dire, mais vous comprenez bien qu'un pareil équipement changerait la nature de la guerre et risquerait de rendre nos vaisseaux
parfaitement obsolète du jour au lendemain. »
Randou sentit tout à coup le poids des ans peser sur ses épaules. Sa mâchoire s'affaissa.
« Un monstre vient de naître, Oval. J'ai bien peur qu'il ne nous dévore tous autant que nous sommes. Et pourtant, nous devons nous battre. Nous n'avons pas le choix. »